Vous écoutez On lit pour vous.
La mairesse de Montréal donne la priorité à l'entretien des infrastructures existantes. Un texte de Marco Fortier paru le 1er juin 2026 dans Le Devoir. Face à des chaussées et à des canalisations souterraines en mauvais état, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, compte augmenter la part des investissements consacrés à l'entretien des équipements existants plutôt que de construire de nouvelles infrastructures. La ville vise à rehausser de 67 % à 75 % la proportion de ses investissements destinés à la protection des actifs existants, a fait valoir la mairesse le lundi 1er juin 2026. La part des dépenses en construction d'infrastructures passera ainsi de 33 % à 25 % des budgets totaux au cours des prochaines années. Madame Martinez-Ferrada réagissait à l'appel à limiter la consommation d'eau lancée aux citoyens en raison de travaux d'urgence à mener sur une conduite de 1,22 mètres, 48 pouces, située sous l'avenue Atwater dans le sud-ouest de l'île. Cette canalisation alimente le réservoir McTavish qui fournit de l'eau potable à 1,3 million de Montréalais. Une autre conduite de 1,52 mètres, 60 pouces, sous la rue de la cathédrale fait déjà l'objet de travaux de réfection. Cela a incité la ville à demander aux citoyens à réduire leur consommation d'eau durant une partie de l'été pour éviter de mettre trop de pression sur le réseau de canalisation qui sera maintenu en service. Geyser Innitpool. Environ 10 % des infrastructures souterraines sont en mauvais état à Montréal. Aux prises avec des installations vieillissantes, la ville cherche à trouver l'équilibre entre le maintien et le développement des actifs, a expliqué la mairesse en marge d'une annonce relative au 150e anniversaire de la création du parc du Mont-Royal lundi. On ne peut pas dire qu'on ne va plus rien développer, a-t-elle ajouté. Ce ne serait pas réaliste. Toutes les autres villes dans le monde font aussi du développement d'infrastructures. Avec Claude Pinard, président du comité exécutif de la ville, on regarde le budget pour réajuster cet équilibre-là. La ville craint, comme la peste, les bris d'aqueduc depuis la rupture d'une importante canalisation à l'angle du boulevard René-Lévesque et de l'avenue Delormier en août 2024, qui avait créé un geyser d'une hauteur de 20 mètres. Une centaine de bâtiments du secteur avaient été inondés. La multiplication des nid de poules à Montréal depuis le début de 2026 incite aussi la ville à investir dans l'entretien des rues, précise la mairesse. L'entretien des infrastructures vieillissantes demeure notre priorité, indique le programme décennal d'immobilisation 2026-2035. La ville compte consacrer 25,9 milliards de dollars sur 10 ans à ses infrastructures, dont 8 milliards pour les canalisations souterraines et 6,7 milliards pour les rues et chaussées. De l'IA pour les feux de circulation. La ville compte sur les citoyens pour qu'ils diminuent leur consommation d'eau potable pendant les travaux d'aqueduc de cet été. Les Montréalais sont invités à réduire au maximum l'arrosage, mais Montréal exclut pour le moment de l'interdire. La ville invite aussi les résidents à prendre de courtes douches au lieu de bain et à mettre la pétale douce sur le nettoyage des voitures. La première étape, c'est de faire appel aux citoyens pour diminuer notre consommation d'eau. On est plus en mode préventif dans la transparence aussi des travaux qu'on a à faire. L'eau potable, c'est précieux. C'est beaucoup d'investissement de la ville. Donc, soyons conscients que chaque fois que notre robinet coule, c'est de l'argent qui coule, a dit Soraya Martinez-Ferrada. La mairesse a aussi confirmé son projet de recourir à l'intelligence artificielle pour gérer la circulation, notamment au centre-ville. La ville doit annoncer cette semaine un investissement qui permettra de coordonner les feux de circulation en fonction des centaines de caméras de circulation réparties dans la ville, auxquelles des dizaines viendront s'ajouter. La valeur de ce contrat n'a pas été précisée lundi. C'était « La mairesse de Montréal donne la priorité à l'entretien des infrastructures existantes ». Un texte de Marco Fortier paru le 1er juin 2026 dans Le Devoir.
Le SMAT de Terre-Neuve, une chronique de Michel David, publiée dans Le Devoir du 21 mai 2026. Anthony Wickham, nouvellement élu premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, avait signifié son intention de renégocier l'entente que son prédécesseur, Andrew Furey, avait signée avec le Québec. François Legault a fait mine de prendre la chose à la légère. Dans une entrevue accordée au Devoir en novembre 2025, celui qui était alors premier ministre du Québec avait expliqué, avec une certaine condescendance, qu'il voulait bien laisser M. Wickham faire le SMAT, entre guillemets, et prétendre avoir arraché, guillemets, un nouveau deal, fin de citation, meilleur que le précédent, à la condition, citation, qu'il ne pense pas qu'on va mettre plus d'argent sur la table. » Fin de citation. Dans l'esprit de M. Legault, la position de son homologue terneuvien était essentiellement de nature électoraliste. Puisque l'entente avait été conclue par un gouvernement libéral, elle était nécessairement mauvaise. Il suffirait donc vraisemblablement, selon lui, de la présenter dans un nouvel emballage pour qu'elle devienne acceptable. C'était peut-être ce que prévoyait M. Wickham, qui, en son fort intérieur, ne trouvait pas l'entente si mauvaise. Le rapport du comité indépendant qu'il a chargé d'en faire l'examen est cependant trop critique, et la crainte de se faire rouler encore une fois par le Québec est trop grande pour que les Terre-Neuviens ne se contentent que d'une transformation purement cosmétique. M. Wickham ne parle plus d'un référendum pour faire approuver l'entente par la population, mesure qu'il avait évoquée durant la campagne électorale, mais Hydro-Québec pourrait devoir faire des concessions significatives pour faire disparaître le ressentiment créé par le contrat de 1969, même si ce dernier avait été signé en toute bonne foi de part et d'autre. Des réaménagements sont possibles, mais encore faut-il que le Québec y trouve son compte. Terre-Neuve et Labrador restent incapables de réaliser les nouveaux projets à Churchill Falls et à Gull Island sans la participation du Québec qui prendrait encore une fois tous les risques. Toute concession devra avoir une contrepartie. À trop vouloir faire le SMAT, M. Wickham pourrait finir par se piéger lui-même. Le rapport du comité indépendant soulève une question que les Terre-Neuviens auraient dû régler au préalable. Quelle quantité d'énergie veulent-ils conserver pour alimenter leurs projets de développement économique, notamment dans le secteur minier? Mais l'électricité que le Québec ne recevra pas le forcera nécessairement à prévoir d'autres moyens de la produire sur son propre territoire, à un coût sans doute plus élevé. Il faudra en tenir compte, d'en entendre. On peut aussi comprendre St. John's de souhaiter avoir accès au marché américain plutôt que d'avoir le Québec comme seul client, mais ce dernier n'a aucun intérêt à laisser cette électricité traverser son territoire ni à se voir concurrencé par Terre-Neuve à New York ou en Nouvelle-Angleterre. Le contrat de 1969 a démontré que l'avenir est imprévisible. Le prix convenu à l'époque permet au Québec de faire un profit faramineux alors que les Terre-Neuviens doivent se contenter de peanuts. Le comité estime que l'échéance de 2075 prévue dans la nouvelle entente est trop lointaine et que la formule de fixation du prix est potentiellement désavantageuse. La position d'Hydro-Québec est cependant très claire. Il n'est pas question de renégocier l'entente intervenue en décembre 2024, citation, à des conditions inférieures à celles initialement convenues. Fin de citation. Comme toujours, le diable se cache dans les détails et une entente d'une telle complexité en formille. L'intervention du fédéral dans le dossier au nom de l'intérêt national risque également de modifier le rapport de force entre les deux parties au bénéfice de Terre-Neuve et Labrador. La simple idée de voir Ottawa s'en mêler et financer la construction de nouvelles lignes de transport d'électricité ne peut que susciter la méfiance à Québec. L'imminence des élections générales au Québec incitera le gouvernement Fréchette à faire preuve d'ouverture. L'intérêt électoral de la coalition Avenir Québec ne doit pas prendre le pas sur celui du Québec à plus long terme. Il est vrai que la possibilité d'une victoire du Parti québécois met aussi de la pression sur Shane Jones. M. Wickham a dit ne pas craindre une telle éventualité, mais la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon avait été très négative en décembre 2024. Le chef péquiste avait jugé humiliante une entente qui reconnaissait implicitement que le contrat de 1969 était injuste envers les Terre-Neuviens et ne tenait pas compte des revendications traditionnelles du Québec quant au Labrador. Un gouvernement péquiste ne tolérerait pas un empiètement du fédéral dans un secteur de compétences provinciales, à plus forte raison dans un domaine qui constitue un objet de fierté pour le Québec depuis les années 1960. Sur le plan politique, signer une nouvelle entente avec Terre-Neuve et Labrador pourrait néanmoins être très avantageux pour un gouvernement souverainiste. Cela démontrerait qu'en dépit de toutes les tentatives de chantage, l'intérêt économique finirait par l'emporter et qu'un Québec indépendant continuerait à entretenir des relations fructueuses avec le reste du Canada au plus grand bénéfice de chacun. Fin de cette chronique de Michel David, titrée « Le SMAT de Terre-Neuve », publiée dans Le Devoir du 21 mai 2026.
À l'avant-garde du déclin démographique. Un texte de Javier C. Hernandez, Pablo Robles et Kiyoko Notoya du New York Times, paru le 8 juin 2026 dans La Presse. La population du Japon a chuté de plus de 3 millions en 5 ans. Une baisse qui souligne l'ampleur de la crise démographique qui s'accélère dans le pays. La population s'élevait à 123 millions en 2025, selon les chiffres préliminaires du recensement publié à la fin de mai, comparativement à 126,1 millions en 2020. C'est la diminution la plus marquée depuis le premier recensement statistique moderne en 1920. La population du Japon a touché son sommet en 2008 avec 128 millions d'habitants et on prévoit qu'elle tombera à 87 millions d'ici 2070. Le pays a maintenant à peu près la même population qu'en 1989. Depuis des décennies, l'État japonais tente de compenser le vieillissement rapide de la population en encourageant les jeunes à avoir plus d'enfants, mais en vain. Le Japon a un des taux de natalité les plus faibles au monde. Pour chaque nouvelle naissance, il y a deux décès. Le canari dans la mine? Le Japon est précurseur de la crise démographique qui guette d'autres pays développés. La diminution de la population freine déjà la croissance économique du Japon, cause une pénurie de main-d'œuvre et exerce une pression sur son système de santé. Le recensement 2025 montre que presque tout le Japon se dépeuple. Seules 2 des 47 préfectures du Japon n'ont pas perdu de population et le rythme s'accélère. La préfecture d'Akita et d'Aomori, dans le nord du pays, sont parmi les plus durement touchées, avec une baisse de 8 % de la population entre 2020 et 2025. Ces régions abritent certains des résidents les plus âgés du Japon et l'exode des jeunes est rapide en raison de salaires stagnants et d'hivers rudes. Les campagnes japonaises se vident car les jeunes partent chercher du travail à Tokyo, à Osaka, à Nagoya et dans d'autres villes. Dans certains villages, des écoles sont transformées en résidences pour personnes âgées et en centres communautaires. Des millions de maisons sont vacantes. Les bureaux gouvernementaux, les hôpitaux réduisent leurs effectifs et des lignes de train ferment. Accueillir plus d'étrangers pourrait compenser en partie ces baisses. Mais le Japon a depuis longtemps une approche prudente en matière d'immigration. De plus, des politiciens et commentateurs nationalistes ont récemment gagné en influence avec un programme appelé « Le Japon d'abord ». Le Japon a maintenant atteint un niveau où ce type de déclin n'est pas réversible à court ou moyen terme, estime James Ramo, spécialiste du Japon et professeur de sociologie à l'Université Princeton. Ça n'arrivera pas sans immigration de masse, ajoute-t-il. Faible taux de fécondité. Le recensement révèle quelques exceptions positives, notamment Okinawa, une chaîne d'îles subtropicales tout au sud, où la population a légèrement augmenté. Okinawa affiche le taux de fécondité le plus élevé du Japon. Les femmes y ont en moyenne 1,5 enfants, comparativement à 1,14 à l'échelle nationale. Les plus grandes villes du Japon réussissent à éviter le déclin démographique pour l'instant. La population de la région métropolitaine de Tokyo, qui comprend Tokyo et les préfectures environnantes de Kanagawa, Saitama et Chiba, a légèrement augmenté pour atteindre 37 millions en 2025. La région représente maintenant environ 30 % de la population totale du Japon. Tokyo, un centre dynamique d'affaires, de politique et de culture, est maintenant environ 20 fois plus dense que le reste du Japon et l'une des villes les plus denses au monde. Sa population a augmenté de 1,4 % pour atteindre 14,2 millions en 2025. Cette croissance a été alimentée en grande partie par un afflux de jeunes à la recherche d'un emploi ou souhaitant poursuivre leurs études. Les problèmes du Japon risquent de s'aggraver durant les prochaines décennies. Il deviendra probablement de plus en plus difficile de trouver du personnel pour les écoles, les hôpitaux, la police et les gares. Et le pays pourrait manquer de jeunes pour payer les impôts nécessaires au soutien des retraités. Selon M. Raimo, la politique nataliste du Japon n'a pas vraiment changé la donne. En fin de compte, le Japon pourrait offrir des leçons à d'autres pays. De plus en plus de pays en Asie et ailleurs connaîtront des niveaux similaires de déclin démographique, prévient-il. Le Japon est simplement à l'avant-garde et y est confronté depuis beaucoup plus longtemps. C'était « À l'avant-garde du déclin démographique », un texte de Javier C. Hernandez, Pablo Robles et Kiyoko Notoya du New York Times, paru le 8 juin 2026 dans La Presse.
Image corporelle, faire la paix avec son reflet. Un texte de Joanne Mercier, paru le 17 mai 2026 dans Virage. Avec l'âge, le deuil du corps jeune et ferme qu'on avait ou qu'on rêvait d'avoir est inévitable. On peut en souffrir et tenter en vain d'éviter les miroirs ou choisir de faire la paix avec son reflet. Comment? Avec lucidité et amour de soi, comme le souligne Marie-Pierre Gagnon-Giroir, une psychologue qui s'intéresse particulièrement aux enjeux qui touchent à l'image corporelle. Hier encore, les implacables signes du vieillissement ne nous concernaient pas. Vieillir, nous? Jamais, ou alors dans très, très longtemps. Mais voici venue, et plus rapidement qu'attendue, l'heure de vérité. Pas question ici de ridules qu'un sourire fait naître au coin des yeux. On parle plutôt de bras flasques, de ventre gênant, de perte de cheveux, de décolleté ridé. Et comme notre espérance de vie s'allonge, il faut s'attendre à ce qu'une bonne partie du voyage s'effectue avec un corps qui ne correspond pas à l'idéal de beauté que nous renvoient les magazines, films et Instagram de ce monde. Les pixels ne mentent pas. Nous avons tous été confrontés, en regardant une photo ou une vidéo de soi, à un visage plus ridé ou une posture plus flétrie qu'on ne le croyait. Prenons le cas de Bruno. 63 ans sur papier, 53 dans sa tête. Quand je promène mon chien dans un sentier assez escarpé, j'en reviens avec une sensation de jeunesse. Puis, quand je croise mon reflet dans le miroir, je me dis « Mais qui est cette vieille personne? Je suis encore jeune, moi. » Cette perception erronée qui nous fait sentir plus jeune, plus mince, plus dynamique, découle d'un phénomène appelé biais cognitif qui entraîne une distorsion de la pensée, explique Marie-Pierre Gagnon-Giroir, psychologue et professeure de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dans ce cas-ci, le but est de protéger notre estime de soi en nous empêchant de nous voir comme nous sommes réellement, c'est-à-dire vieillissant. Personne n'aime voir les marques du temps s'inscrire sur et dans son corps, mais à quoi bon fuir l'évidence qui nous rattrapera tôt ou tard? À 68 ans, je suis arrivé à un moment de ma vie où je me dis que je suis comme je suis et non comme je rêverais d'être, confie Carole. Fini l'âge du paraître, mais cela ne m'empêche pas d'être coquette pour autant. À la maison, je choisis le confort et ça tombe bien. Le mou n'a jamais été aussi beau et douillet. Et pour l'extérieur, je viens de renouveler une partie de ma garde-robe, en acceptant enfin de changer de grandeur de vêtements pour dissimuler mes poignées d'amour une fois pour toutes. Comme l'explique Mme Gagnon-Giroir, ce processus survient souvent lorsque l'espoir de correspondre aux idéaux est devenu inatteignable, comme l'est de courir un marathon pour la plupart d'entre nous, poursuit la psychologue. Quand cet espoir diminue, la pression que l'on s'inflige diminue aussi. Il se produit alors une fusion naturelle entre notre corps et notre âge. Apprécier son corps pour ce qu'il fait. Il est connu que même les femmes jeunes et jolies peuvent être impitoyables envers elles-mêmes. La tyrannie de la fontaine de jouvence n'épargne pas les hommes non plus. En repensant à nos 20 ans, alors que certains se souciaient de la courbe d'un nez, d'une pomme d'Adam proéminente ou de dents plus ou moins droites, on constate que ces préoccupations étaient dérisoires. Aujourd'hui, alors que les marques du temps se font insistantes, la maturité émotionnelle devrait éveiller une certaine empathie face à notre corps. Aimer toutes les parties de son corps est un objectif irréaliste, soutient d'ailleurs la psychologue. Voilà pourquoi on parle depuis quelques années de neutralité corporelle, une approche qui confronte deux enjeux longtemps débattus, être belle ou apprendre à se trouver belle malgré un corps hors norme. La neutralité encourage plutôt à apprécier son corps pour sa fonctionnalité. Marcher, coudre, cuisiner, nager, s'amuser avec les petits-enfants. Autrement dit, on peut être une excellente grand-maman gâteau avec les paupières tombantes. Grand-papa peut être très drôle malgré sa bedaine et tante Yvonne peut s'avérer une femme séduisante grâce à un regard dévastateur qui l'emporte sur les rides. S'accepter, c'est sexy. Dans une société qui carbure à la jeunesse et au corps parfait, ne pas aimer son corps nuit sans contredit à une sexualité épanouie. Je ne me sens pas désirable, mais étonnamment, mon mari n'est pas d'accord, confie Christina. Je trouve ma chérie toujours attirante malgré les années, mais mon grand défi reste de l'en convaincre, confirme Réal. Pourtant, les femmes le savent. Elles qui peuvent craquer pour un sourire, un accent, une odeur, un mot d'esprit, une voix, sans que le corps de l'objet de son désir soit pris en compte. Il faudrait peut-être se rappeler que ce phénomène va dans les deux sens. Les femmes doivent être fières de leur corps pour que les hommes l'apprécient aussi, surenchérit Marie-Pierre Gagnon-Giroir. Durant l'approche sexuelle, il faut se brancher aux sensations intérieures qui nous habitent, plutôt que de penser à ses seins qui s'affaissent quand on enlève son soutien-gorge. Enfin, pour faire la paix avec son corps, peut-être faudrait-il corriger le regard irréaliste qu'on lui porte, tout en étant plus indulgent envers celui qui nous a permis d'être. Même la sublime Sophia Loren disait que le sex-appeal, c'est 50% de ce que vous avez et 50% de ce que les autres pensent que vous avez. Sans oublier que le charme et le charisme n'ont rien à voir avec l'âge. C'était « Image corporelle, faire la paix avec son reflet », un texte de Joanne Mercier paru le 17 mai 2026 dans Virage.